Chapitre 4. Un irritant intermède autobiographique. 1. Comme je l'ai indiqué plus haut, il me serait impossible de traiter de l'évolution de l'horreur en tant que phénomène médiatique et culturel de ces 30 dernières années sans vous offrir de temps à autre une tranche d'autobiographie. Le moment est apparemment venu pour moi de mettre cette menace à exécution. Quelle barbe! Mais vous ne pourrez pas y échapper, ne serait-ce que parce que je suis incapable de me détacher d'un genre dans lequel je me trouve mortellement impliqué. Les lecteurs qui s'intéressent à tel ou tel genre littéraire, le western, le polar noir, le roman d'énigmes traditionnel, la science-fiction ou l'aventure pure et simple, ne semblent que rarement éprouver le désir de psychanalyser la passion de leurs écrivains préférés, et la leur propre, à l'exception notable des amateurs d'horreur. Même s'ils ne l'affirment pas haut et fort, la plupart des gens considèrent que les auteurs et les lecteurs d'horreur ne sont pas tout à fait normaux. J'ai rédigé un long essai en introduction à l'un de mes livres, Danse macabre, afin d'analyser certaines des raisons qui poussent les gens à lire de l'horreur et mon humble personne à en écrire. Je n'ai pas l'intention de me répéter dans ces pages. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'essai en question. Tous les membres de ma famille l'ont adoré. La question qui nous préoccupe est plus énigmatique. Pourquoi les gens s'intéressent-ils autant à la nature de leur passion, qui est aussi la mienne? Je pense que c'est en partie parce que nous semblons tous admettre inconsciemment le postulat suivant. L'intérêt pour l'horreur est quelque chose de malsain et d'aberrant. Si bien que lorsque quelqu'un me demande « Pourquoi écrivez-vous ce genre de livre ?» Il m'invite en fait à m'étendre sur un divan et à lui parler de la fois où je suis resté enfermé dans la cave pendant 3 semaines, de mon apprentissage du pot de chambre ou de mes relations conflictuelles avec mon frère. Tout le monde se contrefiche des circonstances dans lesquelles Arthur Haley ou Harold Robbins ont appris à se passer de couche-culotte, pour la bonne raison qu'il semble parfaitement normal d'écrire des romans consacrés à la banque, à l'aéronautique ou à l'ascension d'un millionnaire. Les Américains adorent savoir comment fonctionnent les choses. Ce qui explique à mon avis le succès phénoménal du forum de Penthouse. Les lecteurs qui y contribuent s'intéressent avant tout à la mécanique du coït, aux trajectoires possibles de la fellation et à la topologie de diverses positions. Autant de préoccupations bien américaines, il faut l'avouer. Le forum n'est ni plus ni moins qu'un manuel d'instruction destiné aux bricoleurs du sexe. Mais ils sont déroutés quand on se passionne pour les monstres, les maisons hantées ou la chose dans la crypte. Les gens qui me posent ce genre de questions me font invariablement penser à Victor de Groot, le psychiatre de bande dessinée, et ils négligent le fait que gagner sa vie en inventant des choses, ce que fait tout écrivain de fiction, est déjà en soi une activité peu ordinaire. En mars 1979, je participais avec 2 autres personnes à un débat sur l'horreur lors des Ides of Mohonk, une réunion annuelle d'auteurs et de lecteurs de romans policiers organisée par Murder, Inc., une excellente librairie spécialisée de Manhattan. Au cours de mon intervention, j'ai raconté un incident qui m'est survenu pendant mon enfance et que m'a rapporté ma mère. Le dit incident s'est produit alors que j'avais 4 ans, et on voudra bien m'excuser si je me souviens du récit qu'on m'en a donné tout en ayant oublié les faits eux-mêmes. À en croire ma maman, j'étais allé jouer chez un voisin dont la maison se trouvait non loin d'une voie ferrée. Je suis rentré chez moi 1 heure plus tard, m'a-t-elle dit, blanc comme un linge. Je n'ai pas ouvert la bouche de la journée. J'ai même refusé de lui dire pourquoi je n'avais pas attendu qu'elle vienne me chercher, ni pourquoi je ne l'avais pas prévenue par téléphone de mon retour, ni pourquoi j'étais rentré par mes propres moyens. Pourquoi la maman de mon copain m'avait laissé partir tout seul au lieu de me raccompagner? Il s'avéra que mon camarade de jeu avait été écrasé par un train alors qu'il s'amusait à traverser les rails. Plusieurs années plus tard, ma mère devait me déclarer qu'on avait ramassé ses restes dans un panier d'osier. Ma mère n'a jamais pu savoir si j'étais près de lui au moment du drame, si celui-ci était survenu avant mon arrivée ou si je m'étais enfui après y avoir assisté. Peut-être avait-elle son idée sur la question. Mais, comme je vous l'ai dit, je n'ai aucun souvenir des faits, Je me rappelle seulement qu'on me les a relatés plusieurs années après. Si j'ai raconté cette histoire, c'était suite à l'intervention d'un auditeur. Vous rappelez-vous un incident particulièrement horrible survenu durant votre enfance ? Avait-il demandé. En d'autres termes, veuillez entrer, monsieur King, le docteur va vous recevoir. Robert Marasco, l'auteur de Notre vénéré chéri et de Jeux d'enfants, a répondu par la négative. Si j'ai raconté mon histoire de train, c'était surtout pour que l'auditeur ne soit pas trop déçu. Et j'ai précisé, comme je viens de le faire ici, que je ne me rappelais rien de l'incident proprement dit. C'est alors que le troisième participant au débat, Janet Jepson, qui exerce le métier de psychiatre ainsi que l'activité d'écrivain, m'a dit « Mais depuis, vous n'avez cessé d'écrire à ce propos. » Murmure approbateur dans le public. On venait de trouver une case dans laquelle me ranger. On venait de me trouver un mobile, bon Dieu. Si j'avais écrit Salem et Shining, si j'avais déchaîné la peste sur le pauvre monde dans le fléau, c'était parce que j'avais vu un camarade de jeu se faire écraser par un train durant ma petite enfance. Je considère cette idée comme totalement spécieuse. De tels jugements psychologiques à l'emporte-pièce sont aussi sérieux à mes yeux que l'horoscope des quotidiens. Ce qui ne signifie pas pour autant que l'écrivain ne puise jamais son inspiration dans son passé, bien au contraire. Un exemple. C'est à l'âge de 8 ans que j'ai fait le rêve le plus frappant dont je me souvienne. J'y voyais le cadavre d'un homme pendu à un gibet en haut d'une colline. Des corbeaux étaient perchés sur ses épaules, et derrière lui se déployait un ciel d'un vert malsain, envahi de lourds nuages noirs. Sur le cadavre était fixé un écriteau « Robert Burns ». Et quand le vent l'a fait tourner sur lui-même, j'ai vu qu'il avait mon visage. C'était un visage défiguré par les coups de bec, mais c'était bien le mien. Puis le cadavre a ouvert les yeux et les a posés sur moi. Je me suis réveillé en hurlant, persuadé que ce visage allait apparaître dans les ténèbres de ma chambre. 16 ans plus tard, ce rêve est devenu une des images les plus fortes de Salem. Je me suis contenté de changer le nom du cadavre, qui est devenu Hubby Marston. Dans un autre rêve, un rêve récurrent que je fais depuis 10 ans chaque fois que je traverse une période difficile, je suis en train d'écrire un roman dans une antique maison où est, paraît-il, cachée une folle meurtrière. Je me suis installé dans une pièce étouffante du 2e étage. Il s'y trouve une porte communiquant avec le grenier, et je sais que la folle est cachée là, et que tôt ou tard, le bruit de ma machine à écrire va l'attirer vers moi. Peut-être est-elle critique littéraire à la New York Times Book Review. Et elle finit par faire irruption dans la pièce, tel un diable sortant de sa boîte, les cheveux gris, les yeux fous, la bave aux lèvres et une hache à la main. Je veux m'enfuir, mais je découvre alors que la maison semble être entrée en expansion, qu'elle a démesurément grandi et que je m'y suis perdu. Quand je me réveille à l'issue de ce rêve, je m'empresse de me blottir contre ma femme pour me rassurer. Nous faisons tous des cauchemars. Et nous en tirons tous le meilleur parti possible. Mais c'est une chose que de se servir de nos rêves, et c'en est une autre que de les considérer comme des causes premières. Ce serait émettre une hypothèse ridicule sur cette intéressante fonction du cerveau humain qui n'a que peu d'applications pratiques, sinon aucune dans la vie de tous les jours. Les rêves ne sont que des petits films mentaux, des tapisseries étranges tissées à partir des fils inutilisés par la réalité, l'esprit humain étant économe et répugnant à jeter quoi que ce soit. Certains de ces films sont classés X, d'autres sont des comédies, d'autres encore des films d'horreur. Je pense qu'un écrivain se construit, qu'on ne naît pas écrivain, pas plus qu'on ne le devient à la suite d'un rêve ou d'un traumatisme. Devenir écrivain, ou peintre, ou acteur, ou metteur en scène, ou danseur, etc., est un acte résultant d'une décision consciente. Le talent a son rôle à jouer, certes, mais le talent est une denrée des plus répandues, encore moins chère que le sel. Ce qui sépare l'individu talentueux de celui qui réussit, c'est le travail acharné et la volonté d'étudier. un processus continu d'apprentissage. Le talent est un couteau émoussé qui ne parvient à couper quelque chose que lorsqu'on le tient avec force, avec une force telle que la lame ne coupe pas tant qu'elle déchire. Et après deux ou trois coups portés avec une telle force, la lame réussit parfois à se briser. C'est sans doute ce qui est arrivé à des écrivains aussi différents que Ross Lockridge et Robert E. Howard. La discipline et le travail sont les deux meules sur lesquelles est affûté le couteau émoussé du talent, jusqu'au moment où il devient assez tranchant pour avoir raison de la viande la plus dure. Ou du moins l'espère-t-on. Il n'existe pas un seul écrivain, un seul peintre, un seul acteur, un seul artiste qui ait jamais reçu un couteau déjà aiguisé. Bien que certains reçoivent parfois un couteau de taille fort respectable, les artistes doués d'un long couteau se voient attribuer le nom de génie. Et nous affûtons notre couteau avec des degrés divers de zèle et d'aptitude. Ce que je veux suggérer, c'est que l'artiste qui souhaite réussir, dans quelque domaine que ce soit, doit se trouver au bon endroit au bon moment. Le bon moment ne dépend que de la volonté des dieux, mais n'importe lequel d'entre nous peut parvenir au bon endroit à force de travail. Mais où se trouve le bon endroit ? Voici un des mystères les plus profonds et les plus sympathiques de la condition humaine. Je me rappelle encore le jour où je suis parti à la recherche d'une source avec mon oncle Clayt, un vieux briscard du Maine s'il en fut. On s'est mis en route, mon oncle Clayt et moi, lui avec sa chemise à carreaux rouge et noir et sa vieille casquette verte, moi avec mon parka bleu. J'avais environ 12 ans. Lui, il pouvait avoir la quarantaine ou la soixantaine. Il tenait sous le bras sa baguette de sourcier et une branche de pommier en forme de bréchet. « Le pommier est le plus efficace bois de sourcier, disait-il, et le bouleau n'est pas mal non plus. Certains utilisent le frêne, mais le credo de l'oncle Clayt le poussait à bannir cette essence. Le grain n'en est pas fiable, et une baguette en frêne adore tromper son homme. À 12 ans, j'étais assez vieux pour ne plus croire au Père Noël, à la petite souris et au sourcier. Ce qu'il y a d'étrange dans notre culture, c'est que la majorité des parents se sentent obligés de chasser, dès que possible, ces fables charmantes de la tête de leurs enfants. Papa et maman ne trouvent jamais le temps d'aider leurs chérubins à faire leurs devoirs ou de leur raconter une histoire avant de les coucher. Qu'ils regardent donc la télé. La télé est le meilleur des babysitters. On y voit plein d'histoires formidables. Qu'ils regardent donc la télé. Mais ils se mettent en quatre pour discréditer ce pauvre Père Noël, les sourciers et la magie blanche. Pour ce genre d'activité, ils trouvent toujours le temps. De tels parents ont beaucoup moins de mal à accepter les fariboles du genre « L'île de Gilligan »,« Drôle de couple » ou « La croisière s'amuse ». Dieu sait pourquoi, la majorité des adultes en sont venus à confondre l'éducation et la chasse à l'imagination. Ils ne se sentent satisfaits qu'une fois que les yeux de leurs enfants ont perdu toute lueur d'émerveillement. « Ce qu'ils racontent là ne me concerne pas » êtes-vous en train de murmurer pour vous-même. « Mais, monsieur ou madame, peut-être bien que si. » La plupart des parents savent pertinemment que les enfants sont des fous, au sens classique de ce terme. Mais je ne pense pas que l'assassinat du Père Noël ou de la petite souris puisse relever d'une quelconque démarche rationnelle. Aux yeux des enfants, le rationalisme de la folie est un outil remarquablement efficace. C'est grâce à lui, entre autres choses, que le monstre ne sort jamais de son placard. L'oncle Clayt avait gardé presque intacte sa capacité à l'émerveillement. Parmi ses autres talents stupéfiants, du moins à mes yeux, il était capable de dénicher les ruches. Il lui suffisait de repérer une abeille en train de butiner une fleur pour, en la suivant à travers bois, fourrés, étangs et marécages, remonter jusqu'à sa ruche. De rouler une cigarette d'une seule main. Il en tortillait toujours le bout avant de l'afficher au coin de ses lèvres et de l'allumer avec une des allumettes Diamond qu'il conservait dans une petite boîte étanche, et de puiser dans un fond apparemment illimité de contes et de légendes. Des histoires d'indiens aux histoires de fantômes, des légendes mythologiques aux annales familiales. Ce jour-là, pendant le dîner, ma mère s'était plainte à Clayt et à sa femme Ella de ce que l'eau coulait de moins en moins fort dans le lavabo et le réservoir des cabinets. Elle craignait que le puits soit de nouveau à sec. À cette époque, vers 1959-1960, nous disposions d'un puits peu profond qui se retrouvait à sec chaque été pendant environ un mois. Mon frère, mon cousin et moi allions alors remplir un immense réservoir qu'un autre de mes oncles, l'oncle Oren, qui fut en son temps le meilleur charpentier et le meilleur maçon du sud du Maine, avait construit dans son atelier. On installait le réservoir sur le haillon d'un vieux break et on le vidait dans le puits à l'aide de gros bidons de lait en acier galvanisé. Et pendant cette période de sécheresse, on ne buvait que l'eau de la pompe municipale. L'oncle Clayt m'a pris à part pendant que les femmes faisaient la vaisselle et m'a dit qu'on allait chercher ensemble un nouveau puits pour ma mère. Pour un gamin de 12 ans, c'était là une façon de passer le temps qui en valait bien une autre, mais je restais néanmoins sceptique. L'oncle Clayt aurait tout aussi bien pu me dire qu'il allait me montrer le terrain d'atterrissage d'une soucoupe volante juste derrière le temple méthodiste. Il a commencé à marcher, la casquette rejetée en arrière sur son crâne, une cigarette aux lèvres, la baguette de sourcier dans les mains. Il la tenait par l'extrémité fourchue, les poignets tournés vers l'extérieur, les deux pouces pressés sur le bois. On s'est baladé sans but précis dans le jardin, puis dans l'allée, puis sur le flanc de la colline où se trouvait le pommier. Et ce pommier est toujours là, sans doute pour le plus grand plaisir des nouveaux habitants de cette maisonnette. Et Clayt ne cessait de parler. Il me racontait des anecdotes de baseball, me parlait de cette mine de cuivre qu'on avait jadis essayé de fonder à Kittery, un trou perdu, me racontait comment Paul Bunyan avait détourné le cours du Presque Stream pour alimenter en eau un camp de bûcherons. Et de temps à autre, il interrompait sa marche et sa baguette frémissait de façon presque imperceptible. Il attendait alors quelques instants. Parfois, la baguette se mettait à vibrer régulièrement, puis s'arrêtait peu à peu.
« Il y a quelque chose par là, Stevie, » disait-il. « Quelque chose, mais pas grand-chose. »
Et je hochais la tête avec sagesse, persuadé qu'il me faisait marcher. Après tout, ce sont les parents, et non le Père Noël, qui posent les cadeaux au pied de l'arbre, vous savez. Tout comme ce sont eux qui prennent la dent de lait glissée sous votre oreiller pour la remplacer par une pièce de monnaie. Mais je ne cherchais pas à contrarier mon oncle Clayt. À l'époque, les enfants de mon âge souhaitaient avant tout être sages, rappelez-vous. On nous enseignait à ne pas répondre aux adultes et à les respecter même quand ils avaient des idées un peu branques. Ce qui est loin d'être une mauvaise façon d'initier les enfants aux aspects les plus ésotériques du comportement et des croyances de son prochain. L'enfant sage, et j'en étais un, a souvent l'occasion de visiter des domaines extrêmement bizarres de l'esprit humain. Je ne croyais pas qu'il était possible de localiser une source grâce à une branche de pommier, mais j'avais envie de savoir comment ce genre de tour était accompli. On est allé sur la pelouse de devant, et la baguette s'est remise à trembler. L'oncle Clayt s'est alors animé.
« Ça y est, on a gagné le gros lot, » dit-il. « Regarde-moi ça, Stevie. Elle va plonger. J'en mettrai ma main à couper. »
3 pas plus loin, la baguette a plongé. Elle a pivoté entre les mains d'oncle Clayt pour pointer vers le sol. C'était un sacré bon tour, pas de problème. J'ai entendu craquer les tendons de ses poignets, et une grimace a déformé son visage lorsqu'il a redressé la baguette pour la pointer vers le ciel. Et dès qu'il a relâché la pression, le bout de bois s'est de nouveau braqué vers la terre.
« Il y a plein d'eau là-dessous, » a-t-il dit. « Tu pourrais en boire jusqu'au jugement dernier sans arriver à épuiser la réserve. » Et on n'aura pas besoin de creuser très profond.
« Je vais essayer, moi aussi, » j'ai lancé.
« Ok, mais recule d'abord un peu. »
Et c'est ce qu'on a fait. On est revenu au bord de l'allée. Il m'a donné la baguette, m'a montré comment la tenir et comment disposer mes mains. Les poignets tournés vers l'extérieur, les pouces vers le bas.
« Sinon cette saleté va te casser les poignets quand tu vas arriver au-dessus de l'eau, » m'a dit Clayt.
Puis il m'a poussé d'une petite tape sur le cul.
« Pour l'instant, on dirait un morceau de bois tout bête, pas vrai ? » a-t-il demandé.
J'en ai convenu.
« Mais quand tu vas t'approcher de l'eau, tu vas la sentir bouger. comme si elle devenait vivante, comme si elle était encore sur l'arbre. Ah, le pommier, c'est ce qu'il y a de mieux. Rien ne vaut le pommier pour trouver de l'eau. »
Ce qui est arrivé ensuite relève peut-être de la suggestion, et je ne compte pas tenter de vous persuader du contraire, bien que mes lectures m'aient depuis convaincu de l'efficacité de la méthode, du moins pour certaines personnes et pour des raisons encore inexpliquées. Mais je dirais que l'oncle Clayte m'avait insidieusement entraîné dans un état similaire à celui que je cherche à susciter chez les lecteurs de mes romans. Ils sont prêts à me croire. Ils ont renoncé au bouclier du rationalisme. Ils ont suspendu leur incrédulité et l'émerveillement est de nouveau à leur portée. Et si c'est ça qu'on appelle la puissance de la suggestion, alors je n'ai rien à dire. C'est plus sain que la cocaïne. Je me suis dirigé vers l'endroit où se trouvait l'oncle Clayte lorsque la baguette avait plongé. Et que je sois damné si cette branche de pommier n'a pas semblé s'animer entre mes mains. Elle s'est réchauffée, elle s'est mise à bouger. La vibration fut tout d'abord perceptible au toucher, mais non à la vue. Puis j'ai vu le bout de la baguette se mettre à frémir.
« Ça marche !» j'ai hurlé. « Je le sens !»
Clayte s'est mise à rire. Et moi aussi. Pas d'un rire hystérique, mais d'un rire de plaisir pur. Quand je suis arrivé là où la baguette avait plongé dans les mains d'oncle Clayte, elle a plongé dans les miennes. À un instant donné, elle était bien droite, et l'instant d'après, elle était pointée vers le sol. Je me rappelle distinctement deux choses à propos de cet instant. La première est une sensation de poids. Ce bout de bois semblait être devenu foutrement lourd. J'arrivais à peine à le tenir. Comme si l'eau se trouvait à l'intérieur du bâton plutôt que sous terre, comme si le bois était gorgé d'eau. Clayte avait redressé la baguette après sa découverte. Il m'était impossible d'en faire autant. Il me l'a prise des mains, et j'ai senti se briser cette sensation de poids et de magnétisme. Elle ne s'est pas transmise de ma personne à la sienne. Elle s'est brisée. Soudain, elle n'était plus là. Je me souviens également d'une impression de certitude et de mystère. L'eau était là. L'oncle Clayte le savait et je le savais moi aussi. L'eau était là, sous la terre. Peut-être même avions-nous trouvé toute une rivière emprisonnée dans la roche. L'impression d'être arrivé au bon endroit. Il existe en ce bas monde des lignes de puissance, vous savez. Des lignes invisibles mais vibrant d'une énergie démesurée et terrifiante. De temps en temps, quelqu'un trébuche sur l'une d'elles et se fait foudroyer, ou encore il la saisit comme il faut et parvient à l'utiliser. Mais il faut d'abord la trouver. Clayte a planté un pieu dans la terre, là où il avait senti la présence de l'eau. Notre puits s'est bel et bien asséché, en juillet et non en août, il avait de l'avance, et comme cette année-là nous n'avions pas assez d'argent pour financer un nouveau puits, le réservoir a fait son apparition sur le haillon du break, et mon frère, mon cousin et moi avons réappris à transbahuter ces fichus bidons de lait. Même chose l'année suivante. Mais en 1963 ou 1964, le puits artésien a bel et bien été creusé. Le pieu planté par Clayte avait disparu, bien entendu, mais je me souvenais encore de l'endroit où il se trouvait. Les puisatiers ont placé leur foreuse, un gros gadget rouge qui ressemblait à une mante religieuse construite avec des pièces de mécano, à moins d'un mètre du point en question. Et j'entends encore maman se lamenter en voyant sa belle pelouse maculée d'argile rouge. Ils ont dû creuser moins de 30 mètres. Et tout comme l'avait dit Clayte, ce beau dimanche où il m'avait fait découvrir les pouvoirs de son bout de bois, il y avait de l'eau en abondance. On aurait pu en boire jusqu'au jugement dernier, sans jamais tarir la réserve. 2. J'en reviens à mon argument, à savoir qu'il est inutile de demander à un écrivain pourquoi il écrit ce qu'il écrit. Autant demander à une rose pourquoi elle est rouge. À l'instar de l'eau que l'oncle Clayte a découverte dans notre jardin par un beau dimanche, le talent est là. Sauf que ça ressemble à un bloc de minerai plutôt qu'à une poche d'eau. Le talent peut être raffiné ou affûté, pour reprendre l'image précédente, et il peut être utilisé d'un nombre infini de façons. L'affûtage et l'utilisation du talent sont des opérations toutes simples que l'écrivain débutant maîtrise parfaitement. C'est uniquement une question d'exercice. Si vous soulevez des haltères un quart d'heure par jour pendant une durée de 10 ans, vous finirez par avoir des muscles. Si vous écrivez 1 heure et demie chaque jour pendant une durée de 10 ans, vous finirez par devenir un bon écrivain. Mais qu'y a-t-il sous la terre? C'est la seule variable, le seul joker dans le paquet. Je ne pense pas que l'écrivain maîtrise ce facteur. Quand on creuse un puits, on doit envoyer un échantillon de l'eau au syndicat des eaux qui en analyse la composition. Et la teneur en minéraux peut varier de façon surprenante. Toutes les gouttes d'H2O ne sont pas égales. De même, bien que Joyce Carol Oates et Harold Robbins écrivent tous deux en anglais, ils n'écrivent pas vraiment dans la même langue. La découverte du talent est quelque chose de fascinant en soi. Quoique difficile à décrire, et je ne m'y risquerai pas. « Laisse faire les poètes !» s'écria-t-il. « Les poètes savent comment parler de ça. Ou du moins, ils le pensent et ça revient au même. Alors laisse faire les poètes !» Cet instant magique où la baguette pointe vers le sol et où on sait que c'est là, c'est bien là. Il est également fascinant de voir le puits se creuser, le minerai se raffiner, le couteau s'affûter. Et c'est tout aussi difficile à décrire. Parmi toutes les sagas consacrées à la lutte héroïque du jeune et viril écrivain, celle qui me paraît la plus convaincante est un roman de Herman Wouk intitulé « Les mangeurs d'âmes ». Mais le sujet auquel je souhaite consacrer quelques pages est un autre type de découverte. Pas celle du talent en soi, mais celle de sa nature exacte. L'instant magique, par exemple, où un jeune joueur de baseball découvre non pas qu'il est capable de lancer la balle, ce qu'il sait sans doute déjà depuis un bout de temps, mais qu'il a le don de la lancer avec une force phénoménale ou de lui faire décrire une parabole qui sème la panique dans les rangs adverses. C'est là un instant de bonheur suprême. Tout ceci, je l'espère, justifiera la tranche d'autobiographie qui suit. Elle n'a pas pour but d'expliquer mon intérêt pour la danse macabre, ni de le justifier, ni de le psychanalyser. Son but est d'exposer les origines d'une passion qui s'est révélée durable, profitable et agréable. Sauf bien sûr lorsque la folle meurtrière jaillit du grenier de cette maison que mon subconscient me fait visiter tous les 3 ou 4 mois. 3. Les parents de ma mère se nommaient Pillsbury et, disait-elle, provenaient de la même famille que les Pillsbury qui produisent aujourd'hui de la farine et des gâteaux. La différence entre leur branche et la nôtre, ajoutait-elle, c'est que les Pillsbury de la farine étaient partis faire fortune dans l'Ouest, tandis que les nôtres étaient restés pauvres mais probes sur la côte du Maine. Ma grand-mère Nellie Pillsbury, née Fogg, fut une des premières femmes à sortir avec son diplôme de la Gorham Normal School. C'était en 1902, je crois bien. Elle est décédée à l'âge de 85 ans, aveugle et grabataire, mais encore capable de décliner ses verbes latins et de réciter la liste des présidents des États-Unis jusqu'à Harry Truman. Mon grand-père maternel était charpentier, et il fut pendant un temps l'homme à tout faire du peintre Winslow Homer. Les parents de mon père venaient de Pérou, Indiana, et avant cela d'Irlande. Les Pillsbury, comme ils sied à des gens de souche anglo-saxonne, étaient doués de sens pratique. Mon père, lui, descendait apparemment d'une longue lignée d'excentriques. Sa sœur, ma tante Betty, était sujette à des absences répétées. Ma mère la considérait comme une maniaco-dépressive, mais maman ne se serait jamais portée candidate à la présidence du fan-club de tante Betty. Ma grand-mère paternelle dévorait chaque matin une miche de pain cuite dans de la graisse de bacon. Et mon grand-père maternel, qui mesurait 1,95 m et pesait 175 kilos, est tombé raide mort à l'âge de 35 ans, alors qu'il courait pour attraper son train. C'est du moins ce que prétend la légende. Comme je l'ai affirmé, il est impossible de dire pourquoi l'esprit humain se passionne pour tel ou tel domaine de façon parfois obsessionnelle. Mais il est possible de dater le moment où cette passion se manifeste. Le moment, si vous voulez, où la baguette de sourcier pointe soudain vers le sol pour désigner une poche d'eau. En d'autres termes, Le talent n'est qu'une boussole. Et nous ne chercherons pas à savoir pourquoi il indique le nord magnétique. Nous préférerons nous attarder sur l'instant où son aiguille pointe vers ce puissant point d'attraction. Il m'a toujours semblé bizarre de devoir cet instant à mon père, lequel a déserté le domicile familial alors que je n'avais que 2 ans, et mon frère David 4. Je ne me rappelle rien de lui, mais sur les quelques photos que j'ai pu voir, il apparaît comme un homme de taille moyenne, un bel homme selon les canons des années 1940, un peu empâté et pourvu d'une paire de lunettes. Durant la Seconde Guerre mondiale, il travaillait dans la marine marchande, traversant régulièrement l'Atlantique Nord pour jouer à la roulette Bosch avec les U-boats. À en croire ma mère, ce n'était pas tant les sous-marins qu'il redoutait que la possibilité de se faire résilier sa licence pour cause de déficience visuelle. Quand il était à terre, il avait l'habitude de brûler les feux rouges et de rouler sur les trottoirs. Ma propre vue n'est pas meilleure. On pourrait croire que j'ai des lunettes sur le nez, mais il m'arrive parfois de penser que ce sont des culs de bouteille. Don King avait la bougeotte. Mon frère David est né en 1945, moi-même en 1947, et mon père a disparu de la circulation en 1949. Mais en 1964, à l'époque de la guerre civile au Congo, ma mère a cru l'apercevoir à la télé, dans un reportage consacré aux mercenaires blancs recrutés par l'un ou l'autre des deux camps. C'est sans doute possible. À ce moment-là, il devait avoir approché ou tout juste dépassé la cinquantaine. Dans ce cas, j'espère qu'il s'était fait refaire des lunettes. Après le départ de mon père, ma mère s'est débrouillée comme elle pouvait pour joindre les deux bouts. Mon frère et moi ne l'avons pas souvent vue durant les 9 années suivantes. Elle a occupé toutes sortes d'emplois peu rémunérateurs. Repasseuse dans une blanchisserie, pâtissière dans une boulangerie, vendeuse dans un magasin, femme de ménage. C'était une pianiste de talent et une femme douée d'un sens de l'humour très développé et souvent excentrique. Et elle faisait de son mieux pour ne pas perdre pied, tout comme d'innombrables femmes avant et après elle. On n'a jamais eu de voiture, et on a eu une télé qu'en 1956, mais jamais on ne sautait un repas. On a parcouru presque toutes les routes du pays durant ces 9 ans, mais on finissait toujours par revenir en Nouvelle-Angleterre. Et en 1958, on s'est établi pour de bon dans le Maine. Mon grand-père et ma grand-mère avaient plus de 80 ans, et le conseil de famille a embauché ma mère pour prendre soin d'eux durant leurs dernières années. Ça se passait à Durham, dans le Maine, et je sais bien que ces divagations familiales semblent nous éloigner du sujet, mais on y revient, rassurez-vous. À 400 ou 500 mètres de la maison de Durham, où mon frère et moi avons achevé notre croissance, se trouvait une adorable maison en briques où demeurait la sœur de ma mère, Ethelyn Pillsbury Flaws, et son mari, Oren. Le garage des Flaws était surmonté d'un immense et fascinant grenier pourvu d'un plancher dangereux et d'un parfum enchanteur. À l'époque, le grenier était relié à tout un ensemble de réduits et de remises, lesquels étaient également connectés à une vieille grange, l'ensemble étant imprégné de l'odeur délicieusement enivrante d'un foin depuis longtemps disparu. Mais il restait encore des traces du temps où la grange abritait des animaux. Quand on grimpait au 3e niveau, on pouvait observer les squelettes de poulets apparemment décédés des suites d'une maladie bizarre. C'était un pèlerinage que je faisais souvent. Ces squelettes avaient quelque chose de fascinant, gisant dans leur nid de plumes aussi éphémères que de la poussière de lune, avec au fond de leurs orbites noires un mystérieux secret. Mais la partie du grenier située au-dessus du garage était une sorte de musée familial. Le clan Pillsbury y entreposait régulièrement toutes sortes d'objets, des meubles aux albums de photos, et un petit garçon avait juste la bonne taille pour explorer les allées étroites de ce capharnaüm, baissant la tête pour passer sous une lampe ou enjambant une caisse pleine d'échantillons de papier peint qu'un oncle ou une tante avait souhaité conserver pour une raison inconnue. On ne nous avait pas formellement interdit d'aller au grenier. Mais ma tante Ethelyn n'aimait pas que mon frère et moi y mettions les pieds, car les lattes du plancher avaient été posées sans être clouées, et certaines manquaient à l'appel. On risquait peut-être de passer au travers et de tomber la tête la première sur le béton, ou sur le pick-up Chevrolet vert de mon oncle Oren. Et c'est là, dans le grenier situé au-dessus du garage de mon oncle, par une froide journée de l'automne 1959 ou 1960, que la baguette de sourcier s'est soudain tordue dans mon esprit. Là que l'aiguille de ma boussole s'est brusquement braquée vers mon nord intérieur. Ce jour-là, je suis tombé sur une caisse de livres ayant appartenu à mon père, des livres de poche datant du milieu des années 1940. Le grenier abritait quantité de souvenirs de la vie conjugale de mes parents, et je ne peux en vouloir à ma mère d'avoir voulu remiser dans un coin sombre ce que son mari avait laissé derrière lui en abandonnant son foyer. Un ou deux ans auparavant, mon frère avait déniché là une bobine de film que mon père avait tournée à bord d'un navire. Dave et moi avons cassé nos tirelires, en cachette de notre mère, nous avons loué un projecteur, et nous avons regardé ces quelques minutes de film dans un silence fasciné. À un moment donné, notre père avait confié sa caméra à un autre marin, et soudain, le voilà. Donald King, de Pérou, Indiana, accoudé au bastingage. Il lève la main, sourit, fait, sans le savoir, un petit signe à des fils qui ne sont même pas encore conçus. On a rembobiné le film, et on l'a regardé une deuxième fois. Et une troisième. « Salut, papa. Où es-tu passé aujourd'hui ?» Dans une caisse, il y avait des manuels d'instruction de la marine marchande. Dans l'autre, divers souvenirs plus ou moins exotiques. À en croire ma mère, bien que mon père se soit souvent baladé avec un roman de western dans la poche, il se passionnait davantage pour l'horreur et la science-fiction. Il avait même essayé d'écrire quelques histoires dans cette veine, les soumettant aux revues les plus populaires de l'époque, notamment Blue Book et Argosy. En fin de compte, il n'a rien publié de sa vie. « Ton père n'avait guère de suite dans les idées », m'a confié un jour ma mère. Le seul jugement que j'ai entendu de sa bouche au sujet de son mari. Mais il a reçu quelques lettres de refus personnalisées. Des lettres du style « Ça ne nous convient pas, mais continuez à nous envoyer votre prose », comme j'en ai pas mal reçu à mon tour durant mon adolescence et jusqu'après mon 20e anniversaire. Quand je me sentais déprimé, il m'arrivait de me demander quel effet ça ferait de se moucher dans une lettre de refus. La caisse que j'ai dénichée ce jour-là regorgeait de vieux livres de poche édités par Avon. En ce temps-là, Avon était le seul éditeur de poche à publier du fantastique et de la terreur. Je me souviens encore de ces bouquins avec affection, en particulier de leur pelliculage caractéristique, une mince couche de substance plastifiée et transparente ressemblant un peu à celle des sachets de congélation. Quand l'histoire traînait un peu, on pouvait se distraire en arrachant de longs lambeaux de ce machin. Ça faisait un bruit merveilleux. Et bien que cela nous éloigne du sujet, j'ai également gardé un souvenir ému des livres de poche édités par Dell durant les années 1940. C'étaient tous des polars, et sur leur quatrième page de couverture figurait un plan détaillé du lieu du crime. Un des bouquins que je venais de trouver était ce qu'on appelait alors un choix de texte. Le mot « anthologie » était apparemment considéré comme trop compliqué pour les amateurs de ce genre de littérature. Il contenait des nouvelles signées Frank Belknap Long, « Les chiens de Tyndalos », Zelia Bishop, « La malédiction de Yig », ainsi que des textes provenant des premiers temps de la revue « Weird Tales ». Parmi les autres figuraient deux romans d'Abraham Merritt, « Brûle, sorcière brûle » et « Le monstre de métal ». Mais le plus fabuleux de ces trésors était un recueil de H.P. Lovecraft. Le titre m'en échappe aujourd'hui, mais je n'ai jamais oublié son illustration de couverture. Un cimetière, situé sans nul doute dans les environs de Providence, en pleine nuit, et surgissant de sous une pierre tombale, une répugnante créature verdâtre pourvue de longues griffes et d'yeux de braise. Derrière elle, à peine suggéré par le dessinateur, un tunnel conduisant aux entrailles de la terre. Depuis lors, j'ai vu plusieurs centaines d'éditions des œuvres de Lovecraft. mais c'est celle-ci qui en résume le mieux la teneur à mes yeux, et je n'ai aucune idée du nom de son illustrateur. Cette caisse de livres ne marquait pas ma première rencontre avec l'horreur, bien entendu. Un Américain de ma génération aurait dû être sourd et aveugle pour ne pas être entré en contact avec un monstre quelconque avant l'âge de 12 ans. Mais ce fut ma première rencontre avec ce qu'il faut bien appeler la littérature fantastique. Lovecraft a été traité de tâcheron, un jugement que je conteste vigoureusement, mais, quoi qu'on en pense, qu'on le considère comme relevant de la littérature populaire ou de la littérature tout court, les opinions varient sur ce point, cela n'a à mes yeux pas grande importance, car dans tous les cas, cet homme prenait son travail au sérieux. Et ça se voyait. Si bien que ce livre, héritage d'un père absent, m'a fait découvrir un univers bien plus complexe que celui des films de série B que j'allais voir le samedi après-midi, ou celui des livres pour la jeunesse de Karl Kammer ou de Roy Rockwell. Quand Lovecraft écrivait « Les rats dans les murs » et « Le modèle de Pickman », ce n'était pas pour s'amuser, ni pour se faire un peu de fric. Il y croyait. Et je pense que c'est cette conviction qui a en grande partie fait réagir ma baguette de sourcier mental. Quand je suis descendu du grenier, j'avais ces bouquins avec moi. Ma tante, une institutrice qui était l'incarnation même du sens pratique, a aussitôt manifesté sa réprobation, mais j'ai tenu bon. Ce jour-là et le jour suivant, j'ai visité pour la première fois les plaines de Leng. J'ai fait la connaissance d'un étrange arabe d'avant l'OPEP, Abdul Al-Azred, auteur du Necronomicon, un ouvrage qui, à ma connaissance, n'a jamais été proposé aux membres du Book of the Month Club, ni à ceux de la Literary Guild, mais qui, à en croire la rumeur, est conservé à l'intérieur d'un coffre dans la salle des collections exceptionnelles de l'université Miskatonic. J'ai visité les villes de Dunwich et d'Arkham, Massachusetts, et surtout, j'ai été transfiguré par la sinistre terreur insidieuse de la couleur tombée du ciel. Une ou deux semaines plus tard, tous ces livres avaient disparu, et je ne les ai plus jamais revus. J'ai toujours été persuadé que ma tante Ethelyn avait sa part de responsabilité dans cette affaire, ce qui n'a en fin de compte aucune importance. J'avais trouvé ma voie. Lovecraft, par l'entremise de mon père, l'avait ouverte pour moi, comme il l'avait fait pour bien d'autres écrivains avant moi, Robert Bloch, Clark Ashton Smith, Frank Belknap Long, Fritz Leiber et Ray Bradbury, pour ne citer que quelques noms. Et bien que Lovecraft, qui est décédé avant que la Seconde Guerre mondiale ne vienne concrétiser nombre des horreurs indicibles qu'il avait imaginées, ne soit guère abordé dans ce livre, le lecteur serait bien inspiré de se rappeler que c'est son ombre, si longue et si décharnée, et ses yeux, si sombres et si puritains, qui dominent la quasi-totalité des œuvres fantastiques publiées depuis sa mort. Lorsque j'ai vu sa photo pour la première fois, ce sont ses yeux qui m'ont le plus frappé. Des yeux pareils à des antiques portraits, encore accrochés de nos jours dans bien des maisons de Nouvelle-Angleterre. Des yeux noirs qui semblent regarder au-dedans, aussi bien qu'au dehors. Des yeux qui semblent vous suivre. 4. L'étrange créature du lac noir est le premier film que je me souvienne avoir vu étant enfant. Ça se passait dans un drive-in, et à moins qu'il ne se soit agi d'une ressortie, je devais avoir environ 7 ans, car ce film, interprété entre autres par Richard Carlson et Richard Denning, date de 1954. C'était en outre un film en relief, mais je ne me rappelle pas avoir porté des verres spéciaux, si bien que je l'ai peut-être vu lors d'une sortie ultérieure. Une seule scène est restée durablement dans ma mémoire, mais elle m'a marqué profondément. Le héros Carlson et l'héroïne Julia Adams, absolument superbe dans son maillot une pièce blanc, participe à une expédition quelque part dans le bassin de l'Amazone. Il remonte un étroit courant marécageux pour déboucher sur un vaste étang qui ressemble à une version sud-américaine du Jardin d'Éden. Mais la créature rôde, évidemment. Il s'agit d'un monstrueux batracien au corps couvert d'écailles qui ressemble de façon frappante à une de ces aberrations dégénérées imaginées par Lovecraft. Le fruit dément et blasphématoire de l'union d'un dieu et d'une mortelle. Je vous avais dit qu'il était difficile d'échapper à Lovecraft. Ce monstre entreprend d'édifier sur le courant un barrage rudimentaire fait de branches et de brindilles, bloquant irrévocablement le passage au petit groupe d'anthropologues. Je savais à peine lire à cette époque, et plusieurs années devaient s'écouler avant que je ne découvre les livres ayant appartenu à mon père. Je garde un vague souvenir des hommes que fréquentait ma mère durant cette période, entre 1952 et 1958 à peu près. Un souvenir assez fiable pour que je sache qu'elle avait une vie sociale normale, pas assez pour que je puisse deviner si elle avait une vie sexuelle. Il y avait Norville, un type qui fumait des Lucky Strike et faisait tourner 3 ventilateurs dans son 2 pièces pendant l'été. Il y avait Milt, qui conduisait une Buick et portait un immense short bleu par temps chaud. Et il y en avait un 3e, un type minuscule qui travaillait, si ma mémoire est bonne, comme cuisinier dans un restaurant français. Pour autant que je le sache, ma mère n'a jamais envisagé d'épouser l'un d'eux. Elle avait déjà donné. En outre, à cette époque, une femme qui se laissait passer la bague au doigt n'avait plus voix au chapitre en ce qui concernait sa famille et son emploi. Je pense que ma maman, qui savait se montrer entêtée, intraitable, d'une ténacité et d'une persévérance à toute épreuve, avait pris goût au double rôle de travailleuse et de chef de famille. Si bien qu'elle sortait avec des mecs, mais qu'aucun d'eux ne finissait par s'installer dans sa vie. Ce soir-là, on était en compagnie de Milt, l'homme à la Buick et aux shorts bleus. Il s'était apparemment pris d'affection pour mon frère et pour moi, et ça ne le dérangeait pas de nous avoir de temps à autre sur sa banquette arrière. Quand on atteint les eaux tranquilles de la quarantaine, l'envie de ploter sa petite amie au drive-in a peut-être perdu de son intensité, même si on dispose pour ce faire d'une Buick aussi spacieuse qu'un yacht. Au moment où la créature a fait son apparition, mon frère s'était allongé sur le tapis de sol et dormait du sommeil du juste. Ma mère et Milt étaient en train de bavarder, peut-être en se partageant une coule. Mais cela n'a aucune importance, du moins dans ce contexte. Seul importe les images en noir et blanc sur le grand écran, où l'indicible chose s'affaire à enfermer le beau héros et la belle héroïne dans le lac noir. J'ai su à ce moment-là que la créature était devenue ma créature. Elle était à moi. Cette créature n'était guère convaincante, même pour un gamin de 7 ans. J'ignorais alors qu'il s'agissait de ce brave Riku Browning, cascadeur aquatique justement réputé, vêtu d'une tenue en latex taillée sur mesure, mais je savais qu'il s'agissait d'un homme dans un costume de monstre, tout comme je savais que plus tard dans la nuit, la créature me rendrait visite dans le lac noir de mon esprit et qu'elle serait beaucoup plus réaliste. Peut-être serait-elle tapie dans le placard à notre retour. Peut-être se serait-elle planquée dans les ténèbres de la salle de bain, empestant l'algue et le marais, impatiente de croquer le marmot. À 7 ans, on n'est pas très vieux. Mais on l'est assez pour savoir que, quand on a acheté quelque chose, on le garde. Ça vous appartient. On est assez vieux pour sentir la baguette de sourcier qui s'anime, qui s'alourdit, qui pointe soudain vers des eaux souterraines. Ma réaction face à la créature peut, je crois, être qualifiée d'idéale. C'est le genre de réaction que tous les écrivains et tous les cinéastes ayant œuvré dans le registre de l'horreur espèrent susciter lorsqu'ils attrapent leur stylo ou leur caméra. Un engagement émotionnel total, vierge de tout processus de pensée rationnelle. Et vous le savez déjà, bien entendu, mais quand on regarde un film d'horreur, le seul processus mental qui suffit à rompre le charme, c'est quand un copain vous murmure à l'oreille « T'as vu la fermeture éclair sur le dos du monstre ?» À mon humble avis, seuls les créateurs ayant longtemps œuvré dans le genre ont pleinement conscience de la fragilité de leur création, de l'effort qu'elles imposent au lecteur ou au spectateur doué d'intelligence et de maturité. Lorsque Coleridge évoque « la suspension de l'incrédulité » dans son essai sur la poésie imaginative, il sait, à mon sens, que l'incrédulité n'est pas un ballon, un objet des plus légers sur lequel il suffit de souffler pour le suspendre dans l'air. C'est plutôt un poids qu'on doit soulever d'un seul coup et ensuite maintenir en l'air de toutes ses forces. L'incrédulité n'a rien de léger, croyez-moi. Si Arthur Haley et H.P. Lovecraft n'ont pas les mêmes tirages, c'est sans doute parce que tout le monde croit aux banques et aux automobiles, alors qu'un effort mental bien plus complexe et bien plus intense est nécessaire, si l'on veut croire, ne serait-ce que pour quelques pages, à Nyarlathotep, le chaos rampant. Et chaque fois que je tombe sur un homme ou une femme qui exprime une opinion du genre « Je ne lis jamais de fantastique et je ne vais jamais voir de films d'horreur, rien de tout cela n'est réel », j'éprouve à son égard une certaine compassion. Le poids du fantastique est trop lourd pour lui. Ses muscles de l'imagination se sont atrophiés. Dans un sens, le public idéal pour l'horreur est un public enfantin. Le paradoxe est le suivant. Les enfants, qui sont plutôt faibles physiquement, n'ont aucun mal à soulever le poids de l'incrédulité. Ce sont les jongleurs du monde invisible, phénomène parfaitement compréhensible quand on considère le point de vue qui est le leur. Les enfants n'ont aucune difficulté à accepter l'aspect logistique de l'arrivée du Père Noël dans leur maison. Il se fait tout petit pour passer par la petite cheminée, et s'il n'y a pas de cheminée, il passe par la boîte aux lettres. Et s'il n'y a pas de boîte aux lettres, il passe sous la porte. Le lapin de Pâques. Dieu. Un grand type plutôt vieux avec une barbe blanche assis sur un trône. Jésus-Christ. À ton avis, comment il a fait pour changer l'eau en vin? Ai-je demandé à mon fils Joe quand il avait 5 ans. Joe, pas Jésus-Christ. Selon Joe, il avait à sa disposition un truc du genre « soda magique », tu vois ce que je veux dire? Le diable. Un grand type à la peau rouge avec des pieds de bouc, une queue avec une flèche au bout, une moustache comme dans les dessins animés. Ronald McDonald. Le roi du logo Burger King. Les elfes du logo Keebler, Dorothy et Toto. Le Lone Ranger et Tonto. Et 1000 autres du même acabit. La plupart des parents se méprennent quand ils croient comprendre cette ouverture d'esprit. Et c'est pour cette raison qu'ils tiennent leurs enfants à l'écart de tout ce qui leur semble peu ou prou horrible ou terrifiant. La publicité des Dents de la Mer était accompagnée du message suivant. Catégorie PG. Le mystère d'Andromède avait eu droit au G. Mais de nature à heurter la sensibilité des plus jeunes spectateurs. Persuadé, je suppose, qu'il serait aussi grave de laisser leur gosse regarder un film d'horreur que de lancer une grenade dégoupillée dans une école maternelle. Mais ce qu'on appelle le passage à l'âge adulte est, à mon sens, un processus continu d'affadissement de la mémoire. Et nous avons presque tous oublié que tout est susceptible de terrifier un enfant de moins de 8 ans. Placé dans des conditions adéquates, un enfant peut aller jusqu'à avoir peur de son ombre. On m'a raconté l'histoire de ce bambin de 4 ans qui refusait de se coucher si on ne plaçait pas une lampe allumée dans le placard de sa chambre. Ses parents ont fini par découvrir qu'il était terrifié par une créature que son père évoquait souvent. Cette créature, qui avait pris dans son esprit des proportions monstrueuses, n'était autre qu'une tête de pioche. Vu sous cet angle, même les films signés Disney sont des champs de mines de terreur. Et ces dessins animés, qui continueront apparemment de sortir et de ressortir jusqu'à la fin du monde, sont parmi les plus répréhensibles. Il se trouve encore aujourd'hui des adultes qui, lorsqu'on leur demande quelle est la scène la plus terrifiante qu'ils aient vue au cinéma durant leur enfance, évoquent celle où la mère de Bambi est tuée par un chasseur, ou celle où Bambi fuit devant la forêt en flammes. Parmi les créations disneyennes que ne renierait pas le batracien du Lagon Noir, figure également la marche incontrôlée des balais dans Fantasia. Et aux yeux d'un enfant en bas âge, l'horreur de la situation est encore accentuée par la relation père-fils qui lie Mickey et le vieux sorcier de façon sous-jacente. Ces fichus balais ont mis plein de désordre, et quand le sorcier, père, va rentrer à la maison, Mickey va être puni. Un enfant dont les parents sont du genre sévère éprouvera sans doute une terreur extatique en voyant cette scène. La nuit sur le Mont Chauve, toujours dans Fantasia. Les sorcières de Blanche-Neige et de la Belle au Bois dormant. La première avec sa belle pomme rouge empoisonnée. Et existe-t-il un enfant à qui on n'ait pas seriné qu'il fallait se méfier du poison? La seconde avec son sinistre rouet. Et dans un film aussi anodin en apparence que Les 101 Dalmatiens, on a affaire à la descendante de ces sorcières des années 1930 et 1940, la maléfique Cruella de Vil, au visage renfrogné et à la grosse voix. Les adultes oublient souvent que les enfants sont terrifiés par les voix un peu graves, les voix de ces géants que sont pour eux leurs aînés, qui a projeté de tuer tous les petits dalmatiens, c'est-à-dire des enfants aux yeux des jeunes spectateurs, pour se faire un manteau de fourrure avec leur peau. Et pourtant, ce sont les parents qui assurent le succès des productions Disney lorsqu'elles ressortent sur les écrans. Et il leur arrive souvent d'attraper la chair de poule quand ils redécouvrent ce qui les avait terrifiés lors de leur enfance. Parce que le propre d'un bon film d'horreur, ou d'une séquence d'horreur dans un film étiqueté comédie ou dessin animé, c'est de démantibuler nos échasses d'adultes pour nous faire retrouver le royaume de l'enfance. Et c'est alors que notre ombre redevient celle d'un chien méchant, d'une bouche béante ou d'une silhouette sombre qui nous fait signe dans le noir. L'exemple le plus frappant de ce retour à l'enfance se trouve peut-être dans le merveilleux film d'horreur de David Cronenberg, intitulé « Chromosome 3 », où une femme souffrant de troubles mentaux produit des enfants de la rage, qui massacrent l'un après l'autre les membres de sa famille. À un moment donné, son père s'assied sur un lit pour noyer dans l'alcool le chagrin que lui inspire la mort de sa femme, la première victime des enfants. Gros plan sur le pied du lit, et des mains griffues surgissent de sous le sommier et se plantent dans la moquette tout près des chaussures du père condamné. Et c'est ainsi que Cronenberg nous fait régresser. Nous avons à nouveau 4 ans, et il y a bien quelque chose de monstrueux tapis sous notre lit. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que les enfants sont mieux équipés que leurs aînés pour affronter l'horreur en tant que telle. Vous remarquerez que j'ai souligné les mots « en tant que telle ». Si un adulte parvient à encaisser la terreur cataclysmique d'un film du genre « Massacre à la tronçonneuse », c'est parce qu'il a conscience que tout ce qu'il voit n'est qu'une illusion. Il sait que lorsque le tournage de la scène a pris fin, les morts se sont relevés pour aller ôter le ketchup de leur figure. Un enfant n'est pas tout à fait capable de faire de telles distinctions. Et c'est avec raison que « Massacre à la tronçonneuse » a été classé R. Les petits-enfants n'ont pas besoin de voir ça. Pas plus qu'ils n'ont besoin de voir la dernière scène de Fury, où John Cassavetes explose littéralement. Mais mon argument est le suivant. Si vous faites regarder « Massacre à la tronçonneuse » à un gamin de 6 ans et à un adulte temporairement incapable de distinguer l'illusion des choses réelles, comme le dit Danny Torrance, le petit garçon de Shining, admettons par exemple que l'adulte ait pris une dose de LSD 2 heures avant le début du film. Alors je vous parie que le gosse en fera des cauchemars pendant une bonne semaine. L'adulte, lui, risque de passer 1 an dans une cellule capitonnée où on ne lui donnera que des crayons de couleur pour écrire à sa famille. Il me semble acceptable et utile d'épicer la vie des enfants d'une petite dose de fantastique et d'horreur. Étant donné leur capacité d'imagination, ils sont parfaitement capables d'y survivre. Et grâce à leur situation unique, ils sont susceptibles d'en tirer profit. Et ils comprennent parfaitement cette situation. Même dans une société aussi ordonnée que la nôtre, ils savent que leur survie est un problème qui les dépasse presque totalement. Jusqu'à l'âge de 8 ans, les enfants sont des dépendants, dans tous les sens du terme. Ils dépendent de leur mère et de leur père, ou d'un parent de substitution, non seulement pour se nourrir, se vêtir et se loger, mais en outre ils comptent sur eux pour ne pas encastrer la voiture dans un poteau, pour les attendre à la descente du car scolaire, pour les ramener à la maison après leur après-midi chez les scouts, pour acheter des remèdes pourvus de capsules de sécurité, pour veiller à ce qu'ils ne s'électrocutent pas en manipulant le grille-pain ou en jouant dans la baignoire avec le salon de beauté de Barbie. L'impératif de survie qui nous anime tous s'oppose violemment à cette dépendance pourtant nécessaire. L'enfant s'aperçoit bien vite qu'il ne contrôle absolument pas son existence. Et je pense que c'est cette prise de conscience qui le met mal à l'aise. Il éprouve une anxiété similaire à celle des passagers d'un avion. Si ceux-ci ont peur, ce n'est pas parce que ce moyen de transport leur paraît peu fiable, c'est parce qu'ils ont renoncé à tout contrôle sur leur existence. Si ça tourne mal, ils n'ont comme seule ressource que d'attraper un sachet à vomi ou un magazine offert par la compagnie. Le renoncement au contrôle est antinomique à l'impératif de survie. À l'inverse, une personne bien informée peut parfaitement savoir que la voiture est un moyen de transport plus dangereux que l'avion. Mais cela ne l'empêche pas de se sentir plus à l'aise quand elle tient le volant, parce qu'elle contrôle alors la situation. Ou du moins le croit-elle. C'est peut-être parce que les pilotes de leur vie inspirent aux enfants une hostilité et une anxiété refoulée que, à l'instar des productions Disney qui sortent et ressortent sans se lasser durant les vacances scolaires, les bons vieux contes de fées semblent eux aussi promis à l'éternité. Un parent qui pousserait des cris d'orfraie à l'idée d'emmener son rejeton voir Dracula ou l'enfant du diable, dont le sinistre leitmotiv est l'image d'un enfant noyé, n'aurait jamais l'idée d'interdire à la babysitter de lui lire Hansel et Gretel avant de le coucher. Mais réfléchissez-y. L'histoire de Hansel et Gretel commence par un abandon d'enfant. Bien sûr, c'est la marâtre qui en a l'initiative, mais il s'agit d'une mère symbolique, et le père n'est qu'un empêché du bulbe qui lui obéit au doigt et à l'œil, même quand il a conscience de mal agir. Si bien que nous pouvons la considérer comme un être amoral, alors que lui commet le mal au sens biblique et miltonien du terme. Se poursuit par un asservissement et une séquestration, et s'achève par un homicide justifié sous la forme d'une incinération. La plupart des parents n'emmèneraient jamais leurs enfants voir survivre. Ce film mexicain fauché, racontant l'histoire de ces rugbymen sud-américains dont l'avion s'était écrasé dans les Andes et qui ont survécu en mangeant leurs équipiers morts. Mais ils ne voient aucune objection, alors laissez lire Hansel et Gretel, où la sorcière engraisse les deux enfants dans le but de les manger. C'est presque par instinct que nous faisons découvrir ces contes à nos enfants, comprenant peut-être inconsciemment qu'ils leur permettent de cristalliser leur angoisse et leur hostilité. Même les passagers d'avion disposent de leurs contes de fées, à savoir les films de la série Airport, qui, à l'instar de Hansel et Gretel et des productions Disney, semblent bel et bien promis à l'éternité. Dommage qu'on ne puisse pas les regarder dans un jardin potager, terre d'élection des navets s'il en fut. La réaction que m'a inspirée ce soir-là l'étrange créature du lac noir ressemblait à une horrible pamoison éveillée. Le cauchemar prenait forme sous mes yeux. Sur l'écran du drive-in m'apparaissaient toutes les hideuses possibilités inhérentes à la chair humaine. Environ 22 ans plus tard, j'ai eu l'occasion de revoir l'étrange créature du lac noir, pas à la télé, où l'ambiance et la tension dramatique auraient été ruinées par des pubs pour des voitures d'occasion, des compilations disco ou des sous-vêtements féminins, Dieu merci, mais sur grand écran, dans une version intégrale, et en relief par-dessus le marché. Les gens qui portent des lunettes, comme c'est mon cas, ont du mal à voir les films en relief. Demandez donc à l'un d'eux comment il se débrouille pour chausser ces putains de bésicles en carton qu'on lui refile à l'entrée de la salle. Si jamais le cinéma en relief fait un retour en force, j'irai faire un tour chez l'opticien du coin pour y investir $70 dans l'achat de verres correcteurs d'un genre spécial, un bleu et un rouge. Abstraction faite de ce détail, je devrais ajouter que j'étais accompagné de mon fils Joe. Il avait alors 5 ans, soit à peu près l'âge que j'avais lors de cette fameuse soirée au drive-in. Et imaginez ma surprise et ma consternation lorsque j'ai découvert que le film qui m'avait jadis terrifié avait été classé G par la MPAA. Exactement comme une production Walt Disney. C'est ainsi que j'ai eu le privilège de faire cet étrange voyage dans le temps que la plupart des parents effectuent lorsqu'ils emmènent leurs enfants voir un film de Disney, ou bien lorsqu'ils lui lisent les aventures de Winnie l'ourson, ou peut-être encore lorsqu'ils l'emmènent à la foire ou au cirque. Si une chanson à succès est capable d'évoquer un tel ensemble de souvenirs dans l'esprit de son auditeur, c'est précisément à cause de la brièveté de son existence. De 3 semaines à 6 mois dans les hit-parades. Les Golden Oldies continuent de passer à la radio parce qu'il s'agit de l'équivalent affectif du café lyophilisé. Quand j'entends les Beach Boys chanter « Help me, Rhonda », je revis durant 1 ou 2 secondes d'enchantement la honte et l'extase de mon premier pelotage. Et un simple calcul mental vous permettra de constater que j'ai abordé cette activité avec un certain retard. Les livres et les films exercent le même effet. Mais je suis d'avis que les sensations qu'ils évoquent sont plus riches et plus profondes, un peu plus complexes en ce qui concerne les films, et beaucoup plus encore en ce qui concerne les livres. Ce jour-là, en compagnie de Joe, j'ai vu l'étrange créature du lac noir par le petit bout de la lorgnette. Mais la théorie que je viens d'énoncer s'est quand même appliquée, à la perfection, dirais-je. Le temps, l'âge et l'expérience ont laissé leur marque sur moi, comme sur nous tous. Le temps n'est pas un fleuve, contrairement à ce qu'affirme Einstein. Le temps est un immense troupeau de bisons qui nous piétine sans trêve et finit par nous terrasser, nous laissant gisant sur le sol, avec un sonotone dans l'oreille et une poche de Stomy sur la cuisse en guise de Colt 45. 22 ans plus tard, je savais pertinemment que la créature n'était autre que Riku Browning, cascadeur aquatique justement réputé, vêtu d'une tenue en latex taillée sur mesure. Et il m'était beaucoup plus difficile d'effectuer cet effort mental qu'est la suspension de l'incrédulité. Mais j'y suis parvenu. Ce qui ne veut peut-être rien dire, mais ce qui signifie peut-être, je l'espère, que les bisons n'ont pas encore eu raison de moi. Et lorsque le poids de l'incrédulité s'est soulevé au-dessus de mes épaules, un flot d'anciennes émotions s'est déversé sur moi, tout comme le jour, il y a 5 ans de cela, où j'avais emmené Joe et ma fille Naomi voir leur tout premier film, à savoir Blanche-Neige et les 7 nains. Il y a dans ce film une scène marquante. Blanche-Neige vient de mordre dans la pomme empoisonnée, et les nains en pleurs l'emportent dans la forêt. Dans la salle de cinéma, la moitié des jeunes spectateurs pleuraient à chaudes larmes. L'autre moitié se retenait à grand-peine d'en faire autant. En ce qui me concerne, j'étais tellement sous le charme de mes souvenirs que je me suis également surpris à pleurer. J'avais honte de m'être laissé manipuler ainsi, mais ça avait encore marché, et je versais des larmes sur les malheurs de personnages de dessins animés. Mais ce n'était pas Walt Disney qui m'avait manipulé. C'était moi-même. C'était le gamin qui était en moi qui pleurait ainsi, arraché à sa léthargie par ses chaudes larmes et revenu à la vie. Durant les 2 dernières bobines de l'étrange créature du lac noir, l'incrédulité est fermement suspendue au-dessus de ma tête. Et le metteur en scène Jack Arnold réussit une nouvelle fois à placer devant moi ces symboles et à poser l'ancienne équation des contes de fées, chaque symbole étant aussi facile à manipuler qu'un cube de jeu de construction. Et l'enfant qui est en moi se réveille, et c'est à nouveau ce que c'est que la mort. La mort, c'est quand la créature du lac noir bloque la sortie. La mort, c'est quand les monstres vous attrapent. À la fin, bien entendu, le héros et l'héroïne sont bien vivants, et en plus ils triomphent, comme Hansel et Gretel. Lorsque les lumières du drive-in s'allument et que sur le grand écran s'inscrit le message disant « Bonne nuit, soyez prudents sur la route », auquel s'ajoute cette pieuse suggestion « Pensez à vous rendre à l'église de votre choix », vous éprouvez une brève sensation de soulagement, presque de résurrection. Mais ce que vous gardez au fond de votre cœur, c'est la terreur que vous avez ressentie lorsque vous avez cru que ce brave Richard Carlson et cette chère Julia Adams allaient couler pour la 3e fois. Et l'image qui reste gravée dans votre esprit, c'est celle de la créature emmurant patiemment ses victimes dans le lac noir. Je la vois encore guettant ses proies derrière ce barrage de boue et de branchages. Ses yeux millénaires.